Secret de Normand. Secret de Normand. Un podcast by Tendance Ouest.
Né à Granville, dans la Manche, Jacques Gamblin y a passé les 18 premières années de sa vie. Il a ensuite fait ses premiers pas de comédien dans une petite troupe, puis est passé devant la caméra. Aujourd'hui acteur, metteur en scène, réalisateur ou auteur, il multiplie les créations. Bonjour Jacques Gamblin, on connaît votre amour pour notre région. Qu'est-ce qu'elle vous inspire ?
La Normandie, c'est trop vaste pour la réduire à quelques... Voilà, moi je peux vous parler de ma Normandie, c'est-à-dire de la Basse, qu'on appelait plus maintenant, mais la Basse, le Cotentin, et qui m'a abreuvé d'images, de lumière, de décors, d'une enfance d'eau salée, de soleil quand il y en avait, ou de pluie, mais enfin, en tout cas du dehors, d'une enfance du dehors, d'une enfance au dehors. Et qui m'a apporté certainement tout un imaginaire autour de ces immenses espaces, de cet horizon au loin, de ce désir d'aller voir ce qu'il y a derrière, et puis des gens, voilà, des gens qui dont le caractère est trempé à l'eau salée, on va dire.
Vous évoquez ces paysages, cette vie au dehors. Est-ce qu'il y a un ou deux lieux particuliers qui vous viennent en mémoire, qui vous ont particulièrement marqué?
Ces immenses plages de dunes du côté de entre Donville et Saint-Martin-de-Bréal, et les heures passées à courir ou sur la plage ou dans les dunes ou à rentrer dans l'eau froide tout en sueur et tout ça, c'est ce qui m'a marqué le plus fortement, oui.
Vous évoquez beaucoup de souvenirs. Vous venez tout récemment de sortir un livre qui s'appelle Mer à l'horizon. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce livre ?
Ce livre, il est une somme de beaucoup de choses, mais le fil rouge de ce livre, c'est des moments passés avec cette femme âgée qui est ma mère, qui a perdu un peu l'entendance, et donc la parole, et aussi peu à peu la mémoire. C'est assez banal, à l'âge qu'elle a, de perdre ces choses-là essentielles. Et j'écris ce livre, en fait, je pense, pour accepter son silence et pour le faire rebondir. Chaque moment passé avec elle, ou d'observation d'elle, ou de dialogue, rebondissent à chaque fois sur soit un souvenir, soit un moment du présent, une autre situation plus personnelle.
Dans votre livre, vous parlez du feu de l'adolescence, de cette intensité de vie, mais aussi de l'esprit d'enfant. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez gardé aujourd'hui, l'un comme l'autre, à l'âge adulte ?
Oui, j'ai gardé ça. Je suis sûr que j'ai gardé ça pour plein de raisons. Déjà, le métier que je fais d'acteur, je pense que c'est un métier de gamin aussi. Enfin, en tout cas, d'adulte qui garde le gamin en eux. Parce qu'on joue, quoi. Comme quand on joue, quand on est gosse, on s'invente des mondes. On s'invente des personnages. On s'invente même parfois plusieurs personnages qui dialoguent entre eux, etc. Il y a incroyablement... parfois, un enfant, on va écouter à la porte de sa chambre et on découvre qu'il parle tout seul et qu'il est dans tout un monde. Il s'invente des amis imaginaires aussi. Bon, et ça, bah, c'est le métier d'acteur. Il est que ça, finalement. Il est « et si j'étais ?» Et si je parlais comme ? Et si mon histoire était une autre ? Etc. Donc, de toute façon, de ce fait. Et puis, en plus, je crois que c'est aussi une couleur très familiale dans ma famille, mes neveux, mes nièces, enfin, ma sœur, mes oncles étaient de joyeux lurons et avaient un sens du jeu, de la réplique, de la joie de vivre. Ce sont des gourmands de la vie, tous les gens qui m'entourent dans ma famille. Et ça, c'est génial.
Sur la carrière d'acteur que vous évoquiez, votre activité d'acteur, c'est quoi votre meilleur souvenir dans toute votre carrière au sens large, que ce soit derrière la caméra ou devant, sur les planches Quel est votre meilleur souvenir de carrière ?
Alors là, j'ai un mal fou à répondre à cette question. Parce que d'abord, j'ai accepté que des projets qui m'excitaient à 200%. J'ai pas multiplié les films pour être présent absolument à l'image et qu'on m'oublie pas ou des choses comme ça. C'est des choix de films qui me correspondent au moment où je les choisis. Donc j'ai aimé aussi partir en voyage sur des tournages parce que, bien sûr, c'est des souvenirs qui ne sont pas liés forcément au tournage, mais aux espaces. Quand je vais tourner au Cambodge, ou quand je vais tourner en Russie, ou quand je vais tourner en Turquie ou je sais pas. Bref, j'ai pas fait énormément de tournages à l'étranger, mais c'est toujours très fort, ça. J'adore aller travailler à l'étranger. Bon, et puis autrement, c'est le passage à l'écriture. Quand je me suis mis à écrire mes spectacles, il y en a eu 7 que j'ai trimballé dans toute la France des années, que je continue. Et donc, quand on réussit, c'est hyper fort. Le monologue, le solo en scène, avec sa propre écriture, raconter ses propres histoires et voir que ça marche, que ça fonctionne, qu'on fait rire des gens, qu'on les touche. Bah, c'est ça, moi, mais les plus beaux souvenirs, c'est évidemment ça, parce que c'est beaucoup de sueur. Donc, quand on passe la ligne, c'est bien.
J'allais un peu modifier la question en disant la meilleure chose que votre profession vous a permis de réaliser, ou les meilleures choses, est-ce que ce serait donc les voyages, l'écriture et ce que vous évoquiez à l'instant ?
Bah, une des meilleures choses que le métier m'a offert, je pense que c'est le travail d'improvisation. Parce que j'ai écrit un certain nombre de ces spectacles à partir d'improvisations filmées. Parce qu'une improvisation, ça n'arrive qu'une seule fois, donc on ne peut pas reproduire une improvisation, donc si elle n'est pas mise dans une boîte, c'est foutu. Et c'est vraiment un espace de liberté que j'ai, mental, que je n'ai pas connu ailleurs. C'est-à-dire dans la répétition, dans les premiers moments de répétition, tout est possible. Et dans ce tout est possible, c'est un cadeau, quoi. C'est un cadeau. Le besoin de liberté, c'est une grosse maladie que j'ai et que je me soigne, que je soigne très mal, et sans doute tant mieux.
Est-ce qu'il y a un rêve que vous n'avez pas encore réalisé ?
J'ai pas eu de rêve dans ce métier, par exemple, puisque j'y suis arrivé comme ça, de façon, comme j'ai expliqué, un peu hasardeuse, et il m'a comblé. Quand je n'en attendais rien, donc quand je me retourne, parce que ça m'arrive quand même, je me dis waouh, quelle chance, quoi, quelle énergie, quelle chance d'avoir fait tout ça, tous ces films, d'être encore en train de créer des choses. Je suis étonné toujours, donc étant toujours étonné de tout ce qui m'est arrivé, de tout ce qui m'arrive, je cultive cet étonnement comme on arrose une plante, quoi. C'est dingue que pour le moment la vie m'a offert et la façon dont j'en ai profité et les rencontres que j'ai faites. Et c'est dingue, jamais j'aurais pensé ça à 15 ans, 18 ans, même 20 ans, jamais. Mais voilà, de quelle façon je décide moi à chaque instant de profiter de tous ces moments-là, voilà. Et qu'est-ce que j'en fais moi, voilà, je suis responsable de moi, c'est la meilleure façon pour moi de vivre.
On retrouve beaucoup « et l'âme d'enfant » avec vous disiez « c'est donné de tout » et « l'éloge du présent » que vous évoquez en disant voilà, « qu'est-ce que je fais aujourd'hui ?» Et est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes heureux dans votre vie ?
Ah oui, bah oui. Oui, je suis heureux pour toutes les raisons... C'est très difficile cette question. Une fois, j'ai posé cette question. Je me souviens, j'étais sur un plateau et puis c'était une soirée un peu rencontre comme ça. Et j'ai posé la question aux gens qui se sentent heureux. Alors, il y a eu très peu de mains qui se sont levées parce que c'est une question trop imprécise. Mais globalement, oui. Oui, je suis heureux de ma vie et je suis heureux des belles rencontres que j'ai faites et que je fais.
Écoutez. Ressentez, découvrez. C'est le podcast Secret de Normand avec Alix Cagnard.
Changeons de registre avec une question un peu plus métaphysique. Est-ce que vous croyez en Dieu ?
Non, je ne crois pas en Dieu. Je ne sais pas qui c'est. J'ai été baptisé, tout ça. Ma mère était, est toujours croyante, tout ça. Voilà, je suis allé à la messe, là, j'ai fait mes communions privées, solennelles, tout ça. Et puis après, exit, je ne voyais pas à quel endroit ça pouvait me nourrir. Donc chacun son truc. Moi, non, c'est pas du tout. En fait, je ne comprends pas cette aventure-là. Je crois, non. J'ai sans doute une autre forme de spiritualité. Que j'aurais beaucoup de mal à définir d'ailleurs, qui est peut-être plus lié à la nature, tout ça, mais mais pas un créateur au-dessus, là, ou en dessous, j'en sais rien. C'est pas ces chemins-là qui me nourrissent.
Est-ce qu'il y a un grand combat dans votre vie, que ce soit un combat alors politique, mais aussi philosophique, idéologique, personnel, un combat ou une cause qui vous tient à cœur?
Elle est en partie ce que je viens de dire. Je pense que l'éducation doit être avant tout un chemin pour rendre les gens, donner les outils aux enfants d'abord, et puis bon, etc., pour réfléchir, nuancer les propos, comprendre le pour, le contre, comme dit un ami, un bâton a toujours deux bouts. Ça, c'est ce que je pense. Et puis, évidemment, aussi, j'allais dire la cause, et c'est pas le bon terme, enfin, écologique, planétaire, enfin, environnementale, qui me soulève parfois, qui me colérise aussi.
Et depuis, qu'est-ce qui vous met en colère ?
Depuis longtemps, quoi. Depuis très longtemps. Alors, je ne suis pas ce qu'on appelle, là encore, aussi un militant, etc. Mais je le suis à ma façon, à chaque fois que je peux. Je ne comprends pas très bien ce qui se passe, que l'objet principal de nos vies ne soit pas celle de la culture de la branche sur laquelle on est assis. C'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, comme quoi ce sujet-là ne soit pas essentiel pour tout le monde, en fait. Donc tout ce qui ne va pas dans ce sens m'inquiète bien sûr, mais surtout me surprend pour mettre à la place quelque chose qui est évidemment mortifère, puisque l'hyperconsommation est mortifère, qu'elle avance tranquillement, et on le sait, les chiffres sont là, vers un mur qui se dresse, quoi. Les ressources naturelles, on le sait, je ne vais pas répéter ça, ne sont pas inépuisables, alors pourquoi on ne fait pas autrement? Et puis... Et tout ça va dans un sens d'égalité aussi, bien sûr. Bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus, c'est simple. Ma pensée, elle est simple, elle est naturelle. Voilà. Bon. Alors, je n'ai pas envie d'être en colère tous les matins en me levant, parce que sinon je vais me faire un ulcère, un cancer, un machin. Mais juste de conserver, ce que je n'ai pas de mal à faire, cette incompréhension. Comment ça se fait que...
On reste sur les sujets moins amusants. Quelle est votre plus grande peur ?
De mal vieillir. Oui, physiquement mal vieillir et puis devenir très dépendant. J'ai pas envie, moi, de dépendre des gens autour de moi et de les emmerder.
Et est-ce que vous avez peur de la mort ?
Oui, j'ai pas envie, ouais. J'ai pas, si c'est une peur ou surtout, j'ai pas du tout envie. J'ai plein de trucs à faire, plein de trucs. Je suis curieux de plein de choses. Donc oui, c'est pas quelque chose avec laquelle je suis tout à fait serein, en fait. Ça m'emmerde, la perspective de disparaître, ouais.
Passons à des questions plus courtes, un peu plus légères.
Oui,
pour
oui.
Pour finir cet entretien, quel est votre plat préféré ? Un plat que vous adorez manger ?
Je ne vais pas répondre par un plat, je vais répondre par des produits. Justement, quand un produit il est bon, il a très peu besoin d'être cuisiné. Donc, je m'efforce d'acheter des produits qui sont bons, et pour la santé, et pour le goût. Donc évidemment, des légumes de saison, des fruits de saison, voilà ce que j'aime. Et un filet d'huile d'olive, et l'affaire est faite. Un plat trop cuisiné, trop en sauce, trop transformé, m'enlève le goût des choses.
Est-ce que vous avez un juron préféré qui sort quand...
Il sort pas, mais quand je pense à un juron qui m'a amusé quand j'étais môme, c'était un juron que faisait mon grand-père quand il se tapait sur les doigts avec son marteau, et il disait « bon scut, bon scut, bon scut ».
Est-ce que vous avez une gaffe inavouable ou une gaffe que vous avez fait un jour là?
Oh, mais j'en fais plein. J'en fais plein des boulettes. Heureusement que je m'en souviens pas de toutes et d'aucune, même, parce que ça me terrifie, les gaffes. Par ce manque de mémoire, parfois, oui. C'est pas, par exemple, hier, avant-hier, je signais des livres, et puis arrive quelqu'un que je connais très 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 bien pour signer mon livre, et dont je ne me souviens plus, par la pression du moment, etc., de son prénom, quoi. Ça, c'est des choses, je m'en veux jusqu'à la mort, parce que ça peut être évidemment extrêmement vexant, donc j'avoue, d'un seul coup, je suis comme un gamin qui a mis le doigt dans la confiture. Je ne sais pas comment dire à cette personne que je connais tellement bien, je ne me souviens plus de son prénom, c'est quand même très con. Et alors ça, c'est banal, mais c'est terrible.
Vous l'avez retrouvé depuis, son prénom ?
Bah, elle me l'a dit. Elle a été assez aimable, assez humble, assez, je sais pas quoi, pour me le dire.
Bon, pour finir, je vous laisse le mot de la fin. Un seul mot. Et pourquoi ce mot ?
Mère. Surtout qu'à l'oral, il est double.
Secret de Normand, le podcast intimiste by Tendance Ouest.